Chapitre 5. Il ne restait depuis longtemps que de faibles traces de cet étang d'Avdioukine auprès duquel Nathalie donnait rendez-vous à Oudine. La digue s'était rompue depuis plus de 30 ans et avait laissé les eaux s'écouler. On apercevait maintenant le fond plat et uni de ce ravin, jadis recouvert d'un gras limon, et les débris de la digue rappelaient seuls l'existence de l'étang. Là s'était élevée autrefois une maison seigneuriale. De l'épais bouquet d'arbres qui entourait la propriété disparue, on ne retrouvait plus que deux énormes pins aux maigres et lugubres feuillages qui murmuraient éternellement au souffle des vents. La légende populaire rapportait qu'un crime épouvantable avait été commis au pied même de ces pins. On disait encore que chaque arbre, en tombant, devait entraîner la mort d'un homme. Ainsi, il y avait eu autrefois un troisième pin. Déraciné par l'orage, il avait dans sa chute écrasé une petite fille. Tout l'entourage du vieil étang passait pour un endroit hanté. Désert, nu, aride et sombre, même en plein jour, il empruntait une apparence encore plus désolée au voisinage d'un ancien bois de chêne, depuis longtemps mort et desséché. Au-dessus des buissons, on voyait s'élever, à de rares intervalles, d'immenses troncs gris, pareils à des fantômes. On frissonnait rien qu'à les regarder. Ils ressemblaient à de sinistres vieillards réunis en conciliabule secret dans le but de machiner quelques mauvaises actions. Un étroit sentier, à peine frayé, longeait sur le côté ce triste ravin. Personne ne passait devant l'état d'Avdioukine sans y être forcé par une nécessité absolue. Aussi était-ce avec intention que Nathalie avait choisi ce lieu solitaire, situé à une demi-verste de la maison de sa mère. Le soleil se levait à peine lorsque Oudine arriva à l'étang. La matinée était sombre. Des nuages amoncelés et d'une couleur laiteuse couvraient le ciel. Le vent les poussait avec un aigre sifflement. Oudine allait et venait sur la digue, toute recouverte de bardanes épaisses et d'orties desséchées. Il n'était nullement rassuré. Ses rendez-vous mystérieux, les sensations nouvelles qu'il ressentait, l'agitaient violemment, surtout depuis le billet de la veille. Il sentait que le dénouement était proche. Une inquiétude profonde envahissait son âme, quoique personne ne s'en fût douté à le voir croiser ses bras sur sa poitrine avec une résolution concentrée et promener ses regards autour de lui. Ce n'était pas sans vérité que Pigassov avait dit une fois en parlant de Oudine qu'il rappelait ces magots chinois qui sont toujours emportés par le poids de leur tête. Mais lorsque la tête seule gouverne un homme, il lui devient difficile, quelque puissant que soit son esprit, d'analyser certains sentiments et de comprendre même bien nettement ce qui se passe dans son cœur. Oudine, le spirituel, le pénétrant Oudine, n'était pas en état de dire avec certitude s'il aimait Nathalie, s'il souffrait, s'il devait souffrir en se séparant d'elle. Pourquoi donc, sans même s'essayer au rôle de Lovelace, il faut lui rendre cette justice ? Avait-il exalté l'imagination de cette jeune fille ? Pourquoi l'attendait-il avec un mystérieux tressaillement ? À cela, il n'y a aucune réponse. C'est que ceux qui ne connaissent point la passion vraie sont précisément ceux qui se laissent le plus facilement entraîner par ses apparences. Il se promenait sur la digue, tandis que Nathalie accourait rapidement au rendez-vous en marchant à travers champs sur l'herbe humide. Mademoiselle, mademoiselle, vous allez vous mouiller les pieds, lui criait sa femme de chambre, Macha, qui avait peine à la suivre. Nathalie ne l'écoutait pas et courait sans regarder en arrière. Oh, pourvu qu'on ne nous ait pas aperçus, répétait Macha. C'est déjà étonnant qu'on ne nous ait pas entendus lorsque nous sommes sortis de la maison, pourvu que mademoiselle Boncourt ne se réveille pas. C'est pas loin, heureusement. Voilà déjà monsieur qui attend, ajouta-t-elle en voyant subitement la taille élancée de Oudine qui faisait saillie sur la digue. Mais il a tort de se tenir ainsi en vue, il aurait mieux fait de descendre dans le ravin. Nathalie s'était arrêtée. Attends ici près des pins, Macha, lui dit-elle en se dirigeant vers l'étang. Roudine vint à sa rencontre et s'arrêta tout surpris. Il ne lui avait jamais vu une expression pareille. Ses sourcils s'étaient rapprochés, ses lèvres se serraient, ses yeux avaient un regard fixe et presque dur. « Dimitri Nikolaïtch, commenta-t-elle, nous n'avons pas de temps à perdre. Les minutes sont comptées. Ma mère sait tout. Monsieur Pandalevski nous a épiés l'autre jour et lui a parlé de notre entrevue. Il a toujours été l'espion de maman. Elle m'a appelé hier chez elle. « Mon Dieu !» s'écria Oudine, « c'est affreux, qu'a-t-elle dit ?»« Elle ne s'est pas fâchée, elle m'a pas grondée. Elle m'a seulement reproché ma légèreté. »« Seulement ?»« Oui, mais elle m'a déclaré qu'elle aimerait mieux me savoir morte que votre femme. »« Elle a dit cela, est-ce possible ?»« Oui, elle a encore ajouté que vous-même ne désiriez nullement m'épouser. » Que vous ne m'aviez fait la cour que par désœuvrement, et qu'elle ne se serait pas attendue à cet abus de confiance de votre part, et que du reste elle avait elle aussi plus d'un reproche à s'adresser. Mais pourquoi, a-t-elle dit, lui ai-je permis de te voir aussi souvent? Et elle a ajouté qu'elle avait compté sur ma raison, et que ma conduite irréfléchie l'avait fort étonnée. Je ne me rappelle déjà plus tout ce qu'elle m'a dit. Nathalie avait raconté cette scène d'une voix égale et presque éteinte. « Et vous, Nathalie, que lui avez-vous répondu ?» demanda Roudine. « Ce que je lui ai répondu, » répéta Nathalie. « Mais auparavant, dites-moi ce que vous avez l'intention de faire. »« mon Dieu, » reprit Roudine, « c'est cruel, si tôt, quel coup soudain !» « Et votre mère est-elle si complètement irritée ?»« Ah oui, oui, elle ne veut pas entendre parler de vous. »« C'est affreux. Il n'y a donc plus aucun espoir ?»« Aucun. »« Le malheur semble nous poursuivre avec un acharnement inouï. »« Mais cependant, Levski est un misérable. »« Vous me demandez ce que j'ai l'intention de faire, Nathalie ?»« Ma tête se perd, je ne puis rien combiner. » Je ne puis que déplorer mon sort maudit. Je suis surpris que vous puissiez conserver votre sang-froid. Croyez-vous donc que cela me soit aisé ? Répondit Nathalie. Odine se mit à marcher sur la digue. Nathalie ne le quittait pas des yeux. Votre mère ne vous a-t-elle pas fait de questions ? Demanda-t-il enfin. Elle m'a demandé si je vous aimais. Eh bien, qu'avez-vous répondu ? Nathalie se tut un instant. Oh, je n'ai pas menti, reprit-elle enfin. Odine lui saisit la main. Toujours noble et grande, mais quelle or pure que ce cœur de jeune fille ! Mais est-il possible que votre mère ait aussi résolument déclaré sa volonté au sujet de notre mariage ? C'est la vérité, je vous ai déjà dit, du reste, qu'elle ne croyait pas que vous eussiez vous-même l'intention de m'épouser. Elle me prend donc pour un fourbe ou un séducteur ? En quoi ai-je mérité un aussi cruel soupçon ? Odine plongea sa tête dans ses mains. Dimitri Nikolaïtch, dit Nathalie, nous perdons inutilement notre temps. Rappelez-vous que c'est la dernière fois que je vous vois. Je ne suis pas venu ici pour pleurer ni pour me plaindre. Vous le voyez, mes yeux sont secs. Je suis venu vous demander conseil. Quel conseil puis-je donc vous donner, Nathalie Alexandrovna? Quel conseil? Mais vous êtes un homme. Je me suis habitué à avoir confiance en vous. Je garderai ma foi en vous jusqu'au bout. Dites-moi quelles sont vos intentions. Mes intentions, Votre mère me fera probablement fermer la porte. C'est possible, elle m'a déclaré hier qu'elle renoncerait à vous voir. Mais vous ne répondez pas à ma question. À quelle question? Que pensez-vous que nous ayons à faire à présent? Ce que nous avons à faire, répéta Roudin, il faut naturellement se soumettre. Se soumettre? Répéta lentement Nathalie, tandis que ses lèvres devenaient toutes blanches. « Se soumettre à la destinée, » continua Roudin. « Que pourrions-nous faire ? » ?»« C'est fort bien que cette résignation sera bien amère et que le coup est doux à supporter, mais décidez-vous-même, Nathalie. »« Je suis pauvre, je pourrais travailler, il est vrai, mais quand même je serai riche. Auriez-vous le courage d'accepter une rupture inévitable avec votre famille ?» De braver la colère de votre mère, non, Nathalie. Il ne faut même pas y penser. Il est évident que nous ne sommes pas destinés à vivre ensemble, et que ce bonheur idéal que j'ai rêvé n'est pas fait pour un malheureux comme moi. Nathalie couvrit tout à coup son visage de ses mains et éclata en sanglots. Odine s'approcha d'elle. « Nathalie, chère Nathalie, » dit-il avec chaleur, « ne pleurez pas, pour l'amour de Dieu. Ne me déchirez pas ainsi le cœur, calmez-vous. » Nathalie leva la tête. « Vous me dites de me calmer, » répliqua-t-elle, tandis que ses yeux humides brillaient d'un éclat extraordinaire. « Mes pleurs n'ont pas le motif que vous leur supposez, non ?» Ma souffrance a une autre cause. M'être trompé sur vous, voilà ce qui fait couler mes larmes. Comment ? Je viens auprès de vous chercher un conseil, un appui, et dans quel moment ? Et votre première parole est celle-ci, se soumettre. Est-ce donc ainsi que vous mettez en action vos théories sur la liberté, sur le sacrifice ? Sa voix se brisa. « Mais Nathalie, » reprit Roudin fort troublé, « rappelez-vous que je ne m'écarte pas de mes principes, seulement... »« Vous me demandez, » interrompit-elle avec une nouvelle force, « ce que j'ai répondu à ma mère quand elle m'a déclaré qu'elle consentirait plutôt à ma mort qu'à mon mariage avec vous ?»« Je lui ai répondu que j'aimerais mieux mourir que d'en épouser un autre que vous. » Et vous parlez de se soumettre. Je commence à croire qu'elle avait raison et que vous ne vous êtes amusé à me faire la cour que par oisiveté pour tuer le temps. Oh, mais je vous jure, Nathalie, non, je vous jure, répéta Roudin. Mais Nathalie ne l'écoutait pas. Pourquoi ne m'avez-vous pas arrêté dès le commencement, dit-elle avec énergie, ou bien pourquoi n'avez-vous pas prévu ces obstacles ? Je suis honteuse de parler ainsi, mais tout est fini maintenant. Il faut vous calmer, Nathalie, reprit Roudin. Il faut que nous recherchions ensemble. Quelles mesures ? Vous avez bien souvent parlé de sacrifice, d'abnégation, interrompit-elle. Mais savez-vous que si vous m'aviez dit aujourd'hui, tout à l'heure, je t'aime, je ne puis me marier, « Je ne réponds pas de l'avenir. Donne-moi ta main et suis-moi. Savez-vous que je vous aurais suivi, que j'étais décidé à tout ? Mais la distance est plus grande que je ne croyais de la parole à l'action. Et vous avez peur maintenant, comme vous avez eu peur de Volinzoff l'autre jour, pendant le dîner. » La rougeur monta au front de Houdin. L'exaltation inattendue de Nathalie l'avait frappée, mais ses dernières paroles blessaient au vif son amour-propre. « Vous êtes trop agitée en ce moment, Nathalie. Vous ne pouvez comprendre à quel point vous m'avez cruellement offensée. J'espère que vous me rendrez justice un jour. Vous comprendrez alors combien il m'en aura coûté de renoncer à un bonheur qui, selon votre propre aveu, ne m'imposait aucune obligation. » « Votre tranquillité m'est plus précieuse que tout au monde. Je serais un grand misérable si je me décidais à profiter. Peut-être, murmura Nathalie, peut-être avez-vous raison, je ne sais plus ce que je dis. Mais jusqu'à ce moment, j'avais cru en vous, j'avais eu foi dans chacune de vos paroles. Dorénavant, posez-les mieux de grâce, ne les jetez plus ainsi au vent. Lorsque je vous ai dit que je vous aimais, je savais à quoi ce mot m'engageait, j'étais prête à tout. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier pour la leçon que je viens de recevoir de vous et à vous dire adieu. Arrêtez, pour l'amour de Dieu, je vous en conjure, Nathalie, je n'ai pas mérité votre mépris, je vous le jure. Mettez-vous à ma place, je réponds pour vous et pour moi. Si je ne vous aimais pas de l'amour le plus dévoué, qui aurait pu m'empêcher de vous proposer sur l'heure de fuir avec moi? Tôt ou tard, votre mère vous aurait pardonné, et alors? Mais avant de penser à mon propre bonheur, il se tut. Le regard de Nathalie, nettement fixé sur le sien, le troublait. Vous vous efforcez de me prouver que vous êtes un honnête homme, Dimitri Nikolaïtch, lui dit-elle, je n'en doute pas. Vous n'êtes pas capable d'agir par calcul, mais avais-je donc besoin d'être persuadé de cela? Était-ce pour cela que je venais ici? Je ne m'attendais pas, Nathalie. Oh, vous vous trahissez malgré vous. Non, vous ne vous attendiez pas à ma réponse. Vous ne me connaissiez pas. Mais soyez sans inquiétude. Vous ne m'aimez pas, je ne m'impose à personne. Mais je vous aime, s'écria Oudine. Nathalie se redressa. Soit, mais comment m'aimez-vous? Je me rappelle toutes vos paroles, dit Dimitri Nikolaïtch. Vous souvenez-vous de m'avoir dit un jour qu'il n'y a pas d'amour sans égalité complète entre ceux qui aiment? Vous êtes trop élevé pour moi, nous ne sommes pas égaux. Je suis puni comme je le mérite. Des occupations plus dignes de votre génie vous attendent. Je n'oublierai jamais ce jour. Adieu. Nathalie, vous partez. Est-ce possible que nous nous séparions ainsi? Il lui tendit la main, elle s'arrêta. On aurait dit que cette voix suppliante la faisait hésiter. « Non, s'écria-t-elle enfin, je sens que quelque chose s'est brisé en moi. Je suis venu ici, je vous ai parlé comme une personne en délire. Il faut que je rentre en possession de moi-même. Cela ne doit pas être, vous l'avez dit vous-même, cela ne sera pas. Hélas, j'avais fait en pensée mes adieux à ma famille. » Quand je suis accouru en ce lieu. Et pourtant, qui ai-je rencontré ici? Un homme sans courage. D'où savez-vous que je suis incapable de supporter une séparation avec ma famille? Votre mère ne consentirait pas, c'est affreux. Voilà tout ce que vous avez trouvé à me répondre. Était-ce vous, était-ce bien vous, Oudine? Non, allez, adieu. « Ah, si vous m'aviez aimé, je le sentirais maintenant. »« Non, non, adieu. » Elle se détourna rapidement et courut vers Macha, qui était depuis longtemps dans l'inquiétude et la rappelait par des signes. « C'est vous qui avez peur et non moi !» s'écria Oudine en la voyant partir. Mais elle ne faisait plus attention à lui et se hâtait de regagner la maison à travers les champs. Elle rentra heureusement dans sa chambre, mais à peine en eut-elle franchi le seuil que ses forces l'abandonnèrent et qu'elle tomba évanouie dans les bras de Macha. Oudine resta encore longtemps sur la digue. Tout à coup, il secoua sa torpeur. Il reprit à pas lents le sentier qu'il avait suivi une heure auparavant. Il était fort honteux et chagrin. « Quelle jeune fille est-ce là » pensait-il, « à 18 ans ?»« Non, je ne la connaissais pas, en effet. C'est une personne remarquable, quelle force de volonté! Elle a raison, elle est digne d'un amour autre que celui que je ressentais pour elle. L'ai-je jamais aimée? Se demanda-t-il. Est-ce possible que je ne l'aime plus? Voilà donc comment tout cela devait finir. Que je suis nul, que je me fais pitié en comparaison d'elle. Le roulement léger d'un drotchki de course força Roudine à lever la tête. C'était Lejniev qui venait du côté opposé avec son éternel trotteur. Roudine le salua en silence. Puis, comme frappé d'une idée subite, il changea de route et prit rapidement le chemin de la maison de Daria. Lejniev l'avait laissé passer en le suivant du regard, mais après un instant de réflexion, il avait tourné son cheval et s'était rendu chez Volintsov. Il trouva son ami endormi, défendit au domestique de le réveiller et alla s'installer sur le balcon pour y fumer un cigare en attendant le déjeuner. Volintsov se leva à 10 heures. Ayant appris à son grand étonnement que Lejniev était assis sur son balcon, il le fit appeler chez lui. « Qu'est-il donc arrivé ? » lui demanda-t-il. « Tu voulais retourner chez toi ?»« Vous saurez, mais j'ai rencontré Roudine. Il était seul et marchait par les champs comme un effaré. Alors je suis revenu. »« Tu es revenu parce que tu as rencontré Roudine ?»« C'est-à-dire, pour parler franchement, je ne sais pas moi-même pourquoi je suis revenu. C'est probablement parce que j'ai pensé à toi. J'ai voulu te tenir compagnie. J'aurais tout le temps de rentrer chez moi. » Volintsov sourit amèrement. C'est cela, on ne peut plus maintenant penser à Roudine sans penser à moi en même temps. Conserve le thé, cria-t-il au domestique. Les amis s'étaient mis à déjeuner. Lejniev parlait de l'administration des biens et d'un nouveau procédé pour couvrir les granges avec du carton bitumé. Tout à coup, Volintsov sauta sur sa chaise et frappa la table avec tant de violence qu'il fit entrechoquer les tasses et les soucoupes. « Non, s'écria-t-il, j'ai pas la force de supporter ceci plus longtemps. Je provoquerai ce prodige, il me tuera ou bien j'arriverai à loger une balle dans son front savant. « Mais de grâce, qu'as-tu donc, grogea Lejniev ? Comment peux-tu crier de la sorte ? J'en ai laissé tomber mon cigare. Mais qu'est-ce qui te prend ? Il me prend que je ne puis plus entendre prononcer son nom de sang-froid. Tout bouillonne en moi. Assez, frère, assez. N'as-tu pas honte ? Répondit Lejniev en ramassant son cigare. Mais laisse-le donc tranquille. » « Il m'a offensé, » continua Volintsov en arpentant la chambre. « Oui, il m'a profondément offensé. Tu dois en convenir toi-même. » Dans le premier moment, je m'en rendais pas compte, j'étais trop surpris. Et au fait, qui donc se serait attendu à cela ? Je vais lui prouver qu'il ne fait pas bon plaisanter avec moi. Ce maudit philosophe, je le tuerai comme une perdrix. Oh, tu dois y avoir grand-chose à ce jeu-là. Je ne parle pas même de ta sœur. Dominée par la passion comme tu l'es, comment penserais-tu à elle ? Mais relativement à une autre personne, crois-tu avancer beaucoup les affaires en tuant le philosophe pour parler à ta façon ? Volintsov se jeta dans un fauteuil. Ah, je veux aller quelque part alors, car ici j'ai le cœur tellement serré par la tristesse que je ne puis trouver de repos. « Ah, t'en aller, c'est une autre question. Je suis de ton avis, cette fois. Et sais-tu ce que je te propose ? Partons ensemble ? Rendons-nous au Caucase ou simplement dans la petite Russie ? Tu as une bonne idée, frère. Oui, mais avec qui laisserons-nous ma sœur ? Et pourquoi Alexandra ne viendrait-elle pas avec nous ? « Cela se peut parfaitement, vrai Dieu. Je prends sur moi d'avoir soin d'elle. Rien ne lui manquera. Elle n'a qu'à parler, et je lui organise chaque jour une sérénade sous sa fenêtre. je parfume les postillons à l'eau de Cologne, je fais planter les fleurs le long de la route. Pour ce qui est de nous, frères, ce sera tout bonnement une régénération. Nous trouverons dans ce voyage tant de jouissances et nous reviendrons avec de si gros ventres que l'amour ne s'attaquera plus à nous. Oh, tu plaisantes toujours, Mirel. Je ne plaisante pas du tout. C'est une pensée brillante qui a jailli de mon cerveau. Mais n'en parlons plus, s'écria de nouveau Molinsov. Je veux me battre avec lui. Encore, voyons, frère, tu es fou aujourd'hui. Un domestique entra avec une lettre. De qui ? Demanda Lejniev. De Rudin Dimitri Nikolaïtch. C'est le domestique de Mme Lasunska qui l'a apporté. De Rudin, reprit Volinsov, pour qui ?
Pour vous, monsieur.
Pour moi ? Le donne donc. Volinsov saisit la lettre, la décacha rapidement et se mit à lire. Lejniev suivait tous ses mouvements des yeux avec attention. Une expression d'étonnement étrange et presque joyeux se répandait sur les traits de Volinsov. Il avait laissé retomber ses mains. De quoi s'agit-il ? Lui demanda Lejniev. Lis, répond le Volinsov à demi-voix en lui tendant la lettre. Lejniev commença à lire. Voici ce qu'écrivait Rudin. Monsieur, je quitte désormais la maison de Daria Mikhailovna et je pars pour toujours. Cela vous étonnera probablement, surtout après notre entrevue d'hier. Je ne puis vous expliquer ce qui m'a forcé à agir ainsi, mais il me semble que je dois vous prévenir de mon départ. Vous ne m'aimez pas et me tenez même pour un méchant homme. Je n'ai pas l'intention de me justifier. Le temps le fera pour moi. Il est inutile et indigne d'un homme de chercher à convaincre de l'injustice de sa prévention une personne prévenue contre lui. Celui qui voudra me comprendre m'excusera. Quant à celui qui ne veut ni ne peut me comprendre, son accusation ne me touche pas. Je me suis trompé sur votre compte. À mes yeux, vous serez toujours, comme autrefois, un homme noble et honorable. Mon tort est d'avoir supposé que vous seriez vous dégagé du milieu dans lequel vous avez vécu. Je me suis trompé, qu'y faire ? Ce n'est ni la première ni la dernière fois que cela m'arrivera. Je vous le répète, je m'en vais. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Avouez que ce souhait est complètement désintéressé. J'espère que vous serez heureux désormais. Peut-être le temps changera-t-il votre opinion sur mon compte. Je ne sais si nous nous reverrons jamais, mais dans tous les cas, croyez à la sincérité de mon estime. D. Rudin. Post-scriptum. Je vous enverrai les 200 roubles que je vous dois aussitôt que je serai arrivé chez moi dans le gouvernement de T. Je vous prie de ne pas parler de cette lettre à Daria. Post-scriptum, encore une dernière et importante prière. Puisque je pars immédiatement, j'espère que vous ne ferez pas allusion à ma visite chez vous en présence de Nathalie. Eh bien, qu'en dis-tu ? Demanda Volinsov aussitôt que Lejniev eut fini la lettre.
Qu'est-ce qu'on peut dire ? Répondit Lejniev.
Tout ce qui reste à faire, c'est de crier à la façon d'un musulman « Allah, Allah !» et de mettre son doigt dans sa bouche en signe d'étonnement. Il s'en va, soit, que le chemin se déroule comme une nappe sous ses pieds. Mais le plus curieux, c'est que le devoir seul l'a poussé à t'écrire cette lettre. C'est aussi par sentiment du devoir qu'il a apparu chez toi. Ces messieurs trouvent un devoir à remplir à chaque pas. Tout est devoir pour eux. Ou dette,
continua Lejniev, avec un sourire en montrant le post-scriptum. Quel faiseur de phrases ! S'écria Volintsov. Il s'est trompé sur mon compte. Il s'attendait à me voir supérieur au milieu. Quelle absurdité, bon Dieu ! Lejniev ne répondit pas. Ses yeux seuls souriaient. Volintsov s'était levé. J'ai envie d'aller chez Daria, dit-il. Je veux savoir ce que signifie tout cela. Ne te presse pas, frère, laisse-lui le temps de partir. À quoi bon aller de nouveau te heurter contre lui? Tu vois qu'il s'en va, que peux-tu désirer de plus? Il vaudrait mieux aller te coucher et dormir. Tu as passé toute ta nuit à te retourner dans ton lit. Maintenant, tes affaires s'arrangent. Mais d'où tires-tu cette conviction? C'est mon idée. Allons, va te coucher. Moi, j'irai chez ta sœur. Je veux lui tenir compagnie. Je n'ai nulle envie de dormir. À quel propos veux-tu que j'aille me coucher? J'aime mieux m'en aller voir les champs, ajouta Volintsov en secouant les pans de son paletot. C'est bon, va voir les champs, ami, va. Et Lejniev se dirigea vers la chambre d'Alexandra Pavlovna. Il la trouva au salon. Elle l'accueillit d'un air aimable, car la vue de Michael lui faisait toujours plaisir, mais ses traits restèrent empreints de tristesse. Elle était demeurée soucieuse depuis la visite que Roudine avait faite la veille à son frère. « Venez-vous de chez mon frère ?» demanda-t-elle à Lejniev. « Comment se trouve-t-il aujourd'hui ?»« Bon, il est fort bien, il est allé visiter les champs. » Alexandra se tut. « Dites-moi, de grâce, reprit-elle en examinant avec attention la bordure de son mouchoir de poche, ne savez-vous pas pourquoi ?»« Pourquoi Roudine est venu ?» interrompit Lejniev. « Je le sais. Il est venu dire adieu. » « Comment dire adieu ?»« Oui, ne le saviez-vous point. Il quitte la maison de Daria. Il s'en va. » Pour toujours, c'est au moins ce qu'il dit. Mais comment comprendre cela après? Ah, c'est une autre question. Il ne s'agit pas de comprendre, mais les choses sont ainsi. Il faut qu'un événement soit survenu là-bas. Il a sans doute trop tendu la corde et elle s'est rompue. Michael, répliqua Alexandra, je m'y perds absolument. Il me semble que vous vous moquez de moi. « Je vous jure que non. Je vous l'ai dit, il s'en va. Il en a même informé ses amis par rescrit. Si vous voulez, à un certain point de vue, c'est un grand bien. Mais ce départ va mettre obstacle à la réalisation d'un projet les plus surprenants que nous débattions ensemble, votre frère et moi. Quel projet? J'avais proposé à votre frère de voyager pour se distraire et de vous emmener avec nous. Je prenais sur moi d'avoir soin de vous. Voilà qui est charmant, s'écria Alexandra. Je prévois de quelle façon vous auriez soin de moi. Vous me laisseriez mourir de faim. Vous parlez ainsi, Alexandra, parce que vous ne me connaissez point. Vous me prenez pour un lourdeau, un parfait lourdeau, une espèce d'homme des bois. Mais si vous saviez que je suis en état de fondre comme du sucre et de passer les journées à genoux. J'avoue que je voudrais voir cela. Lejniev se leva subitement. Eh bien, Alexandra, épousez-moi et vous en verrez bien d'autres. Alexandra rougit jusqu'au blanc des yeux. Comment avez-vous dit cela, Michael ? Reprit-elle toute troublée. Je dis, continua Lejniev, ce qui m'est venu depuis longtemps dans l'esprit, ce qui est venu plus de 1000 fois sur le bout de ma langue. Bon, j'ai parlé, enfin. Vous n'avez qu'à agir comme bon vous semblera. Je m'éloigne à présent pour ne pas vous gêner. Oui, je m'en vais. Si vous consentez à être ma femme, si cela ne vous est pas désagréable, vous n'avez qu'à me faire rappeler. Je saurais comprendre. Alexandra avait voulu retenir Lejniev, mais il était rapidement sorti et s'était dirigé tête nue vers le jardin, où il s'appuya contre une petite porte en laissant errer ses regards dans le vague. « Monsieur, dit derrière lui la voix de la femme de chambre, rentrez auprès de madame, s'il vous plaît, et m'a ordonné de vous appeler. » Lejniev se retourna, saisit entre ses mains la tête de la femme de chambre, l'embrassa avec effusion sur le front, au grand étonnement de l'innocente messagère, et retourna chez Alexandra. Le rapport de Pandalevski avait fortement impressionné Daria. Tout son orgueil s'était réveillé en recevant cette révélation. Roudine, le pauvre Roudine, cet homme inconnu et sans position sociale, avait osé donner un rendez-vous à sa fille, à la fille de Daria Mikhailovna Lasutska. « Admettons qu'il soit un homme d'esprit, un homme de génie même, » s'était-elle écriée. « Qu'est-ce que cela prouve ? À ce compte, le premier venu, sans nom, sans fortune, pourrait donc aspirer à l'honneur de devenir mon gendre. » « Pendant longtemps, je ne pouvais en croire mes yeux, » répondait Pandalevski. « Je suis étonné qu'il ait de la sorte oublié sa position et la vôtre. » Daria Mikhailovna s'était laissée aller à sa mauvaise humeur, et Nathalie avait eu beaucoup à souffrir du dépit de sa mère. Quant à Roudine, il était rentré à la maison aussitôt après sa rencontre avec Lejniev et s'était enfermé dans sa chambre pour écrire deux lettres. La première, dont le lecteur a déjà pris connaissance, était adressée à Volintsov, l'autre à Nathalie. Roudine avait employé plus d'une heure à composer cette seconde lettre. Après y avoir fait bien des ratures et bien des changements, il la recopia soigneusement sur un papier extrêmement fin, la plia ensuite en lui donnant le plus petit format possible et la mit dans sa poche. Ce travail terminé, il s'était promené dans sa chambre de long en large, le visage empreint de tristesse, puis s'était enfin assis dans un fauteuil auprès de la fenêtre, la joue appuyée sur la main. Une larme perlait au bord de ses paupières. Tout à coup, et comme s'il venait de prendre une résolution suprême, il se leva, boutonna son habit jusqu'au menton, appela son domestique et fit demander à Daria Mikhailovna si elle pouvait le recevoir. Le domestique revint en annonçant que sa maîtresse l'attendait. Roudine suivit immédiatement le messager. Daria reçut son hôte dans son boudoir, comme le jour de sa première apparition chez elle, il y avait 2 mois, avec cette différence toutefois qu'elle n'était pas seule. Pandalevski, toujours aussi modeste, aussi frais, aussi propre, aussi humble, se tenait auprès d'elle. Daria fit un gracieux accueil à Roudine et celui-ci, de son côté, la salua avec une aisance apparente. Mais au premier regard jeté sur leur visage souriant, tout homme connaissant un peu le monde aurait discerné à travers leur manière polie et amicale une gêne et une froideur véritables. Roudine savait que Daria avait contre lui de sérieux griefs et celle-ci se doutait que Roudine connaissait ses nouvelles dispositions. Dès qu'elle eut rendu son salut à Roudine, elle l'engagea à s'asseoir. Il s'assit aussitôt, mais non plus comme il s'asseyait autrefois quand il était à peu près maître du logis. Pas même comme ça soit une simple connaissance qu'on reçoit avec plaisir. Il ressemblait plutôt à un étranger faisant avec contrainte une visite de cérémonie. Un instant avait suffi pour changer la situation, mais il n'en faut pas davantage pour qu'une eau limpide se transforme en un bloc de glace épais. Roudine parla le premier. « Je suis venu vous trouver, dit-il, pour vous remercier de votre hospitalité. J'ai reçu des nouvelles importantes et je dois dès aujourd'hui me rendre dans ma petite propriété. » Daria fixa son regard sur Oudine. Il me devance, il se doute probablement de ce qui le menace, pensa-t-elle, et il veut éviter une explication embarrassante. Tant mieux, vivent les gens d'esprit. Est-ce possible ? Répondit-elle à haute voix. Oh, cela est vraiment bien désagréable. Mais enfin, puisqu'il le faut. J'espère vous revoir cet hiver à Moscou. Nous y retournerons bientôt. Je ne sais pas encore quand je pourrai aller à Moscou, Daria Mihailovna, mais si j'en trouve les moyens, je me ferai un devoir de me présenter chez vous. Ah, frère, pensait Pandalevski dans son fort intérieur. Il n'y a pas longtemps que tu agissais en seigneur et maître ici. Et maintenant, voilà comme tu es obligé de t'exprimer. Les nouvelles que vous avez reçues tout à coup de votre terre sont sans doute peu satisfaisantes, demanda-t-il avec son affectation habituelle. Oui, répondit sèchement Oudine. Une mauvaise récolte, peut-être? Non, autre chose. Croyez bien, madame, que, continua Oudine, que je n'oublierai jamais le temps que j'ai passé dans votre maison. Et moi, ajouta Daria, oh, je me souviendrai toujours avec plaisir du jour où j'ai fait votre connaissance. Quand partez-vous? Aujourd'hui, après le dîner. Si tôt? Eh bien, je vous souhaite un heureux voyage. Du reste, si vos affaires ne vous retiennent pas longtemps, peut-être vous trouverez-vous ici encore. Bon, j'ose à peine l'espérer, répondit Oudine. Et il se leva. « Excusez-moi, continua-t-il, si je ne puis en ce moment acquitter la dette que j'ai contractée envers vous, mais aussitôt que je serai arrivé chez moi. »« Oh, laissons cela, interrompit Daria, vous m'affligeriez en insistant. »« Quelle heure est-il ? » demanda-t-elle. Pandalevski tira de la poche de son gilet une petite montre émaillée, et inclinant prudemment sa joue rose sur son col blanc et en pesé, 2h33, dit-il. Ah, il est temps d'aller s'habiller, répondit Daria. Au revoir, Dimitri Nikolaïtch. Toute cette conversation entre Daria et Oudine avait eu un cachet tout particulier. Il en doit être ainsi quand les acteurs répètent leur rôle et que les diplomates échangent entre eux des phrases combinées d'avance. Oudine était sorti. Il savait maintenant par expérience que les gens du monde ne rejettent pas celui qui leur est devenu inutile ou gênant, mais qu'ils le laissent simplement tomber de lui-même, comme tombent des gants après le bal, quand ils ne sont plus retenus, ou les billets non gagnants d'une loterie. Sa malle fut bientôt faite. Il ressentait une sorte d'impatience en attendant le moment du départ. Toutes les personnes de la maison paraissaient étonnées en apprenant son brusque dessein. Les domestiques lui jetaient des regards surpris, et le naïf Bassistoff ne cherchait pas à cacher sa douleur. Quant à Nathalie, elle se dérobait le plus tôt possible et évitait même les yeux de Oudine. Il avait pourtant résolu à lui glisser sa lettre dans la main. Pendant le dîner, Daria répéta plusieurs fois à Oudine qu'elle espérait le revoir encore avant son départ pour Moscou. Mais celui-ci ne fit aucune réponse. Cette apparente politesse ne le trompait pas. Pandalevski fut celui qui causa le plus avec lui, et Oudine éprouva plusieurs fois le désir violent de saisir à la gorge ce désagréable personnage et de souffleter son visage frais et rose. Mademoiselle Boncourt portait souvent ses yeux sur Oudine, avec cette expression étrange et rusée qu'on peut quelquefois observer dans les regards des vieux chiens d'arrêt très sagaces. « Hé hé,
semblait-elle se dire à part soi. Voilà donc comment on traite aujourd'hui. 6 heures sonnèrent enfin et on entendit venir le tarantas de Houdin. Il se leva vivement et fit ses adieux à tout le monde. Il était intérieurement fort mal à son aise. Il ne s'était pas attendu à sortir de la maison de cette façon. En réalité, ne l'en chassait-on pas? Au reste, tout doit avoir une fin, pensait-il, en s'inclinant à droite et à gauche, avec un sourire forcé. Il jeta un dernier regard à Nathalie et sentit son cœur se serrer. Les yeux de la jeune fille étaient fixés sur lui, et leur dernier regard contenait un dernier reproche. Il franchit rapidement l'escalier et se précipita dans le tarantas. Bassistoff s'était offert à l'accompagner jusqu'à la première station et avait pris place à côté de lui. « Vous rappelez-vous ? » s'écria Houdin aussitôt que le tarantas fut sorti de la cour pour rouler sur une large chaussée bordée de sapins. « Vous rappelez-vous ce que disait Don Quichotte à son écuyer au moment de quitter la maison de la duchesse ?»« Mon ami Sancho, lui disait-il, la liberté est un des biens les plus précieux de l'homme. Heureux celui auquel le ciel donne son pain quotidien, afin qu'il n'en soit redevable à personne. J'éprouve maintenant ce que Don Quichotte éprouvait alors. Dieu fasse, mon cher Bassistoff, que vous ne connaissiez jamais le sentiment dont je veux parler. » Bassistoff serra la main de Houdin et le cœur de l'honnête jeune homme battit fortement dans sa poitrine généreuse. Houdin parla jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à la station. Il parla de la dignité de l'homme, des conditions de la vraie liberté. Il fut plein de chaleur, de noblesse, de vérité. Et quand, au moment de la séparation, Bassistoff ne put s'empêcher de se jeter à son cou en pleurant, Houdin versa aussi quelques larmes. Mais il ne pleurait pas parce qu'il quittait Bassistoff. Ses larmes étaient des larmes d'amour propre. Nathalie était rentrée chez elle pour lire la lettre de Houdin. « Chère Nathalie, lui écrivait-il, je me suis décidé à partir, il ne reste pas d'autre issue à notre situation. Je me suis décidé à partir avant qu'on en vienne à me dire clairement qu'il faut que je m'éloigne. Mon départ fera cesser tous les malentendus et personne ne me regrettera. À quoi bon hésiter encore ? Tout cela est vrai, penserez-vous, mais alors pourquoi vous écrire ? Il est probable que je vous quitte pour toujours, et je vous écris parce qu'il m'est trop amer de penser que je vous laisserai un souvenir plus mauvais que ma conduite ne le mérite. Je ne veux ni me justifier, ni accuser qui que ce soit. Je veux seulement m'expliquer autant que cela m'est possible. Les événements des derniers jours ont été si inattendus, si subis. L'entrevue d'aujourd'hui restera pour moi comme une leçon mémorable. Oui, vous avez raison. Je croyais vous connaître, je ne vous connaissais pas. Dans le cours de mon existence, je me suis trouvé dans l'intimité de bien des femmes et de bien des jeunes filles, mais c'est en vous que j'ai trouvé pour la première fois une âme complètement honnête et droite. Je n'ai pas connu des âmes comme la vôtre, et je n'ai pas su vous apprécier. Dès le premier jour de notre connaissance, je me suis senti attiré vers vous. Vous avez pu vous en apercevoir. J'ai passé bien des heures avec vous, et je n'ai pas appris à vous connaître, et pourtant, j'ai pu m'imaginer que je vous aimais. C'est à présent que je porte la peine de ma faute et de mon ignorance. Il m'est arrivé autrefois d'aimer une femme et d'être payé de retour. Mon sentiment pour elle était complexe, comme l'était le sien pour moi. Pouvait-il en être autrement, puisqu'elle-même n'était pas une nature simple? La vérité, alors, ne s'était pas encore manifestée à moi, et le jour où elle s'est présentée devant mes yeux, je n'ai pas su la reconnaître. Me la reconnais enfin, mais trop tard. Le passé ne se recommence pas. Nos existences auraient pu se confondre, et elles sont séparées maintenant pour toujours. Comment vous persuader que j'aurais pu vous aimer d'un amour véritable, d'un amour de cœur et non d'imagination, quand je ne sais pas moi-même si je suis capable d'un pareil amour? La nature m'a beaucoup accordé, je le sais, et ne veut pas qu'une fausse honte m'entraîne à faire de la modestie avec vous, surtout dans cet instant, un des plus amers et les plus humiliants de ma vie. Oui, la nature m'a beaucoup donné, mais je mourrai sans avoir rien fait qui soit digne de mes talents. Je mourrai sans laisser de mon passage ici-bas la moindre trace bienfaisante. Toute ma richesse aura été prodiguée en vain. Je ne verrai pas les résultats de mes efforts. Il me manque, enfin je ne puis dire moi-même au juste ce qui me manque. Je suis probablement privé de ce don dans lequel il est aussi impossible de remuer le cœur des hommes que de s'emparer du cœur des femmes. Et la domination sur les intelligences seules est aussi peu durable qu'inutile. Ma destinée est étrange, presque risible. Je voudrais me donner absolument sans réserve tout entier, et pourtant je ne puis me donner. Je finirai par me sacrifier pour quelque folie à laquelle je ne croirais même pas. Je ne me suis jamais ainsi dévoilé devant personne. Ceci est ma confession. Mais en voilà bien assez sur moi. Je veux vous parler de vous et vous donner quelques conseils. Je ne suis plus bon à autre chose. Vous êtes jeune, mais dussiez-vous vivre longtemps, ne manquez jamais de suivre les impulsions de votre cœur. Gardez-vous surtout de vous assujettir à votre esprit ou à celui des autres. Croyez-moi, plus le cercle dans lequel se meut notre vie est étroit et monotone, plus il suffit à notre bonheur. Il ne s'agit pas de chercher de nouvelles voies dans l'existence, mais de faire en sorte que toutes les phases de la vie s'accomplissent à leur moment. Heureux, celui qui est jeune au temps de sa jeunesse. Mais je m'aperçois que ces conseils s'adressent bien plus à moi qu'à vous. Je vous avouerai, Nathalie, que j'ai le cœur bien serré. Je ne me suis jamais mépris sur la nature du sentiment que j'inspire à Daria Mikhailovna. Mais du moins, j'avais espéré trouver chez elle un refuge momentané. Maintenant, je m'en vais de nouveau errer au hasard à travers le monde. Qu'est-ce qui remplacera pour moi votre douce voix, votre présence, votre regard attentif et intelligent? La faute en est à moi, mais convenez aussi que le sort a semblé se jouer à dessein de nous. Il n'y a de cela qu'une semaine, je soupçonnais à peine que je vous aimais. L'autre jour, le soir dans le jardin, vous m'avez dit pour la première fois. Mais à quoi bon rappeler ce que vous m'avez dit alors? L'autre jour, et je pars déjà. Je pars honteux, humilié, après une cruelle explication, sans emporter le plus faible espoir. Vous ne savez pas encore pourtant à quel point je suis coupable vis-à-vis de vous. Il y a en moi une si sotte franchise, un tel penchant au bavardage. Mais pourquoi revenir là-dessus? Je pars pour toujours. Rudine voulut ici raconter sa visite à Volintsov, mais après un instant de réflexion, il biffa tout ce passage. C'est alors qu'il ajouta le second post-scriptum à la lettre de Volintsov. Je reste sur la terre uniquement pour me livrer à d'autres occupations, à des occupations plus dignes de moi, ainsi que vous l'avez dit ce matin avec un cruel sourire. Hélas, pourrais-je réellement m'adonner à ces occupations? Pourrais-je surmonter ma paresse? Mais non, je serai toute ma vie cet être incomplet
que j'ai été jusqu'à présent. Devant le premier obstacle, je tomberai en poussière. Ce qui s'est passé entre nous l'a déjà prouvé. Si, du moins, j'avais sacrifié mon amour à mon activité future, à ma vocation, mais non, je n'ai reculé que devant la responsabilité qui me menaçait et devant la certitude de n'être pas digne de vous. Je ne vaux pas la peine que vous sortiez pour moi de votre sphère où tôt ou tard le bonheur vous attend. D'ailleurs, tout ce qui est arrivé est sans doute pour le mieux. Cette épreuve me laissera peut-être plus fort et plus pur. Je vous souhaite le bonheur le plus constant. Adieu. Souvenez-vous quelquefois de moi. J'espère que vous entendrez encore parler de Routine. Nathalie laissa tomber la lettre de Roudine sur ses genoux et resta longtemps immobile, les yeux fixés à terre. Cette lettre lui prouvait plus clairement que tous les témoignages possibles combien elle avait eu raison le matin lorsqu'en quittant Roudine, elle s'était volontairement écriée qu'elle ne l'aimait pas. Mais cette conviction ne soulageait pas son cœur. Elle restait sans mouvement. Il lui semblait que des vagues sombres s'étaient rejointes sans bruit sur sa tête et qu'elles disparaissaient froides et engourdies au fond d'un abîme. Pour tout le monde, la première délusion est lourde à supporter, mais elle devient presque écrasante pour une âme sincère, exempte de toute légèreté, de toute exagération, et peu désireuse de se tromper elle-même. Nathalie se rappelait son enfance et songeait à ses anciennes promenades du soir. Elle se dirigeait toujours de préférence vers la partie lumineuse du ciel, là où le couchant étincelait encore à l'horizon, et elle détournait instinctivement ses regards du levant déjà ténébreux. À l'heure présente, au contraire, l'avenir s'assombrissait devant elle. Il lui semblait qu'elle avait tourné le dos à la lumière. Les yeux de Nathalie se remplissaient de pleurs. Les larmes n'ont pas toujours une action bienfaisante. Elles sont douces et salutaires lorsqu'après s'être longuement amassées dans le cœur, elles s'en échappent enfin, d'abord brûlantes et amères, puis abondantes et faciles. C'est ainsi qu'elles soulagent le muet accablement de la douleur. Mais il y a des larmes froides, des larmes répandues une à une. C'est la souffrance sans issue qui les arrache goutte à goutte de l'âme oppressée par son pesant et persistant fardeau. Celle-ci n'apporte point de consolation. Elle ne procure pas de bien-être. Ce sont les larmes que verse le désespoir. Et nul ne peut se dire malheureux qui ne les a senties couler de ses paupières. Nathalie apprit à les connaître en ce jour. 2 heures s'étaient passées. Nathalie avait rassemblé ses esprits, elle s'était levée, avait essuyé ses yeux et allumé une bougie, à la flamme de laquelle elle se mit à brûler la lettre de Roudine. Lorsque le papier fut complètement consumé, elle en jeta les cendres par la fenêtre. Puis elle ouvrit au hasard un volume de poésie de Pouchkine et lut les premières lignes qui lui tombèrent sous les yeux. Elle avait souvent consulté ainsi ce livre au hasard. Celui que la passion a une fois maîtrisé est sans cesse poursuivi par le fantôme des jours irrévocablement passés. Pour lui, la vie a perdu son charme. Il est rongé par le remords et par le serpent du souvenir. Elle resta un instant debout, se regarda au miroir avec un sourire glacé, inclina lentement la tête de haut en bas et rentra dans le salon. Aussitôt que Daria l'eut aperçue, elle l'appela dans son boudoir, la fit asseoir à côté d'elle, lui caressa tendrement la joue, et la regarda dans le blanc des yeux tout en l'observant avec attention, presque avec curiosité.
Daria ressentait une secrète perplexité. Pour la première fois de sa vie, elle était frappée de l'idée qu'elle ne connaissait pas la nature de sa fille. Instruite par Pandalevski de son entrevue avec Roudine, elle ne s'était pas seulement fâchée, mais étonnée de ce que la sage Nathalie se fût décidée à une démarche pareille. Pourtant, quand elle l'eut appelée et qu'elle eut commencé à la gronder, non avec le ton d'une femme élevée dans les idées de l'Europe vraiment civilisée, mais d'une voix criarde et vulgaire, Daria fut toute troublée, presque effrayée, par la fermeté des réponses et la résolution de regard et de la tenue de sa fille. Le départ subit de Rudy, dont elle ne s'expliquait pas tout à fait la cause, lui avait ôté un grand poids du cœur, mais elle s'était attendue à des larmes, à des attaques de nerfs. L'apparente tranquillité de Nathalie la rejetait dans de nouvelles suppositions. « Eh bien, enfant, lui demanda Daria, comment te sens-tu aujourd'hui ?» Nathalie regarda sa mère. « Le voilà parti, ce monsieur. Ne sais-tu pas pourquoi il s'est enfui si vite ?»« Maman, répondit Nathalie d'une voix calme, si vous ne m'en parlez pas vous-même, je vous donne ma parole que son nom ne sortira jamais de ma bouche. » « Il paraît que tu conviens enfin de tes torts envers moi. » Nathalie baissa la tête et répéta. « Vous ne m'entendrez jamais parler de lui. »« C'est bien, répliqua Daria en souriant, je te crois. Mais te rappelles-tu comme l'autre jour ? Bon, allons, n'en parlons plus. C'est fini, le voilà bien mort et enterré, n'est-ce pas ? Je te reconnais, du moins, je t'ai toute déconcertée. » « Eh bien, embrasse-moi, sage et cher enfant. » Nathalie porta la main de Daria à ses lèvres et Daria embrassa le front incliné de sa fille. « Écoute toujours mes avis, n'oublie pas que tu es une Lasutska et ma fille, ajouta-t-elle. Sois heureuse, tu peux te retirer maintenant. » Nathalie sortit en silence. Daria la suivit des yeux en se disant « Elle me ressemble, elle aussi souffrira par le cœur, mais elle sera moins expansive que moi. » Et Daria se plongea dans des réminiscences du passé, d'un passé fort lointain. Puis elle fit appeler Mademoiselle Boncourt et resta longtemps enfermée avec elle. L'ayant renvoyée, elle le demanda à Pandalevski. Elle voulait absolument savoir la véritable raison du départ de Roudine. Il va sans dire que Pandalevski la tranquillisa complètement. C'était dans son rôle. Le lendemain, Volintsov et sa sœur allèrent dîner chez Daria. Elle avait été toujours fort aimable pour eux, mais ce jour-là, elle leur fit un accueil particulièrement bienveillant. Nathalie se sentait prise d'une tristesse immense. Toutefois, Volintsov se montrait si respectueux envers la jeune fille, il entrait si vivement en conversation avec elle, qu'elle ne put s'empêcher de lui en être reconnaissante au fond du cœur. La journée avait été calme, même ennuyeuse. Mais en se séparant, tout le monde comprit qu'on était retombé dans l'ancienne ornière. Et ce n'est pas peu de chose. Oui, l'ancienne existence recommençait pour tous, y compris Nathalie elle-même. Demeurée enfin seule, elle se traîna péniblement jusqu'à son lit, et fatiguée, brisée, elle laissa tomber sa tête sur son oreiller. Vivre lui semblait une chose si amère, si rebutante, si vulgaire. Elle était si honteuse vis-à-vis d'elle-même, de son amour, de ses tristesses, qu'en ce moment elle aurait probablement consenti à mourir. Elle avait encore devant elle bien des journées accablantes, bien des nuits sans sommeil, bien des agitations pénibles. Mais elle était jeune, sa vie commençait à peine, et tôt ou tard l'existence
avec son activité et les distractions inévitables qu'elle apporte, prend le dessus, quel que soit le coup dont on est frappé. Quel que soit le coup qui frappe un être humain, il ne peut s'empêcher, lecteur, pardonnez la brutalité de l'expression, de manger le jour même ou le jour suivant. Et voilà déjà une première consolation. Nathalie souffrait cruellement pour la première fois, mais ni la première souffrance, ni le premier amour ne se renouvellent. Et nous devons en remercier Dieu.